cinétique par le père Marie-Dominique Philippe à Saint-Jodard le 24 janvier 96.
Continuons de réfléchir sur le statut et en même temps sur la structure propre de l'éthique chrétienne. Voyez, quand on regarde le développement interne de la philosophie première, on voit que, de fait, toutes les parties de la philosophie reposent sur une expérience. En découvrant l'être premier, on découvre une réalité qui échappe à notre expérience directe. Et on entre, à partir de là, dans une recherche différente, qui est une recherche de sagesse. Parce que, de fait, je n'expérimente pas directement l'existence de l'être premier. Et je ne peux pas analyser l'être premier. L'être premier ne peut être que contemplé. Et par le fait même que cette contemplation est une contemplation qui ne repose pas sur un contact direct, cette contemplation n'a pas et ne peut pas avoir les précisions, la netteté, la détermination que peut avoir une réalité que j'expérimente directement. C'est plus l'amour qui comble l'imperfection et les limites de ma connaissance. Quand c'est l'amour spirituel, cela va bien, mais très facilement, c'est l'imagination. Ordinairement, quand mon intelligence ne peut pas aller jusqu'au bout, il y a comme un appel. En raison de cette pauvreté, pour l'imaginaire. C'est comme ça qu'on est bâti. L'imaginaire vient tout de suite là, parce qu'il y a une crevasse. Alors que il faut pas cet imaginaire, il faut que ce soit vraiment l'intelligence et l'amour. Et donc, que ce soit l'amour spirituel qui vient compléter. L'amour spirituel peut compléter ce que l'intelligence ne dit pas. Et c'est en ce sens-là qu'il peut y avoir une véritable contemplation qui intellectuellement est très fragile et faible, mais qui amoureusement peut être, elle, très forte. Et c'est le preuve justement de la sagesse de pouvoir laisser un certain dépassement à l'amour sans tomber dans un point de vue imaginatif qui passerait devant. Et c'est là où on comprend très bien que ceux qui identifient le rationnel et l'intelligible sont plus d'accord. Parce que l'amour ne complète jamais le rationnel. Tandis que l'amour peut compléter ce qui est de l'ordre de l'intelligibilité. Donc il y a là un problème foncier qui est très très important pour préciser le statut sapientia de la théologie naturelle. présence de quelque chose d'analogue, donc de tout à fait différent. Quand il s'agit de l'éthique chrétienne, puisque je n'ai pas expérience intellectuelle, philosophique du mystère du Christ, je ne touche pas immédiatement le mystère de la révélation, point de vue intellectuel, point de vue philosophique. Mais je peux réfléchir sur ce dépassement qui m'est donné dans la foi. J'y réfléchis par rapport à ce que moi-même je peux expérimenter si je suis un croyant et si je ne le suis pas en interrogeant les croyants. Je suis là dans un domaine, voyez, qui est supra-intelligible, supra-rationnel, a fortiori, mais supra-intelligible, mais qui intéresse l'homme. Et c'est pour ça que ça intéresse le philosophe. Le philosophe n'a pas le droit de dire « ça ne m'intéresse pas ». C'est du supra-rationnel, c'est du supra-intelligible. Si, de fait, la révélation ne faisait pas appel directement au bonheur de l'homme, je pourrais dire ça. C'est une spécialité. Est-ce qu'il est nécessaire d'être un technicien pour le bonheur humain? Non. Spécialité. Ça m'intéresse, mais c'est une spécialité. La révélation chrétienne ne se présente absolument pas comme une spécialité. Elle se présente comme apportant le bonheur pour tous les hommes. Et donc, à ce moment-là, le philosophe ne peut pas négliger ça. Et il doit essayer de comprendre ce que cette révélation apporte de nouveau à l'homme et quels sont les moyens pour l'homme de l'atteindre. Oui, ce n'est pas de l'apologétique. C'est vraiment dans le prolongement d'une attitude philosophique. Mais, et ça, il faut le souligner trois fois, ça fait que cette connaissance a un statut tout à fait différent. Cette éthique chrétienne, au plan philosophique, a un statut inférieur de certitude philosophique que l'éthique fondamentalement humaine et de l'éthique humaine. Puisqu'elle repose sur un au-delà de l'expérience humaine. Elle repose sur un don gratuit donné aux hommes, que en tant que philosophe, je n'ai pas. En tant qu'homme, je peux le voir. Ah oui, c'est important de bien distinguer cela. Vous allez me dire, mais en tant que philosophe, puisque le philosophe regarde l'homme, je dirais en tant qu'homme connu et atteint par la philosophie, puisque le philosophe regarde l'homme, la conception que je peux avoir de l'homme par ma philosophie, la révélation est un au-delà. La révélation s'achève dans la mort de Jésus. La révélation chrétienne, elle s'achève dans la mort du Christ. Et c'est pour cela que le mystère de la mort de Jésus apparaît comme le sommet de la révélation par rapport aux chrétiens, par rapport à l'homme chrétien, en ajoutant tout de suite que cette mort du Christ, de fait, n'est pas le point terminal, puisque c'est la résurrection de Jésus qui donne une lumière ultime à la mort du Christ. Tout est repris par le mystère de la résurrection. Et le chrétien est très convaincu de cela. Si le Christ n'est pas ressuscité, vaine est notre foi. C'est-à-dire, notre foi n'atteint pas sa finalité. Puisque c'est ça, vanum. Vain, c'est ce qui n'atteint pas sa finalité. Donc si le Christ n'est pas ressuscité, vaine est notre foi. Elle est sans finalité. Donc, au-delà de la mort du Christ, je dois toujours regarder la résurrection. En ce sens que je ne peux pas regarder la mort du Christ uniquement pour elle-même. Je dois la regarder en elle-même, mais en vue de la résurrection. Et dans la lumière de la résurrection, je comprends que la mort du Christ prend tout son sens. Et donc, cette éthique chrétienne, c'est l'éthique de la mort du Christ dans la lumière de la résurrection. Je crois que c'est très important de préciser cela. C'est pas l'éthique de la mort, c'est l'éthique de la vie. Une vie qui passe par la mort et qui implique la mort. Je ne peux pas supprimer la mort de Jésus et ne regarder que la résurrection. La grande tentation moderne. Il est mort une fois et il est ressuscité pour l'éternité. Donc, dépassons vite la mort et ne regardons que l'éternité. C'est plus facile et plus agréable. Oui. Donc on voit très bien la tentation permanente qui existe tout le temps et qui existe à chaque époque. On ne regarde que la fin, la résurrection. Ou on ne regarde que la mort. Il faut regarder les deux. Et le lien entre la mort et la résurrection. Parce que c'est cela qui caractérise mon éthique chrétienne. L'éthique chrétienne n'est pas premièrement une doctrine, n'est pas premièrement une morale. C'est une éthique qui repose sur un lien de vie, d'amitié, avec une personne qui est à la fois homme et Dieu. Une personne qui a donné sa vie pour moi. Et une personne qui est vivante actuellement. Et qui vit actuellement pour moi. Alors, essayons de regarder ce lien entre la mort de Jésus et sa résurrection pour saisir ce qu'il y a de caractéristique à cette éthique. S'il y a des points sur lesquels vous n'êtes pas d'accord, écrivez-les, parce que c'est important pour nous tous. de le faire, parce que je ne peux pas vous renvoyer un tel manuscrit. Tel étude, tel livre. Il y a eu des essais, c'est sûr. Et c'est intéressant du reste de tous les regarder. Et je ne crois pas que la philosophie ait vraiment traité cette question-là. Même ceux qui sont pour une éthique, même ceux qui sont pour une philosophie chrétienne, ils n'ont pas élaboré. Ils l'affirment. Alors peut-être qu'on peut revenir un instant sur ce fait que si c'est vraiment le mystère de la mort et de la résurrection, ce lien entre la mort et la résurrection qui caractérise l'éthique chrétienne, on voit bien que ceci me permet de situer exactement que l'éthique chrétienne est au niveau de la vie, et pas au niveau de l'être. Jésus ne vient pas changer l'être. Et ceci est significatif, puisque de fait, Adam demeure le prince de l'humanité. Et donc le prince de l'être humain. Et Jésus est lui, prince et roi de notre vie surnaturelle. C'est la différence entre ce qui aurait été voulu premièrement par Dieu. On n'aurait pas pu faire cette distinction de manière aussi nette, puisque selon la tradition chrétienne, Adam et Ève ont été créés dans la grâce, tandis qu'au contraire, nous sommes nés sans la grâce, et même nous sommes nés dans un état d'infirmité, de pécheur. Si Adam demeure le prince de l'humanité, ceci nous montre bien que la nature humaine, en tant que nature humaine, reste la même, que le péché n'a pas modifié notre nature humaine. Elle l'a amputée. Mais notre nature humaine, dans ce qu'elle a d'essentiel, reste la même. Et donc, la grâce chrétienne ne nous met pas en présence d'une nouvelle métaphysique. Mais la grâce chrétienne nous met en présence d'une nouvelle éthique qui est au niveau de la vie humaine et de la finalité humaine. Ceci est important pour bien comprendre que ceux qui prétendent qu'il y a une métaphysique chrétienne manquent là de discernement. Pour qu'il y ait une métaphysique chrétienne, il faudrait que, de fait, Jésus soit source d'une nouvelle nature humaine, d'un nouvel être humain. Or, Jésus reçoit le pécheur avec sa propre nature. C'est cela qu'il réalise voûte et après la voûte. Et transformée par le Christ, elle demeure substantiellement la même. Il n'y a donc pas une transformation au niveau de l'être, mais au niveau de la vie. C'est une nouvelle vie qui nous est donnée en tant que chrétiens. Ce n'est pas au sens strict un nouvel être. C'est pour ça qu'il n'y a pas une métaphysique chrétienne, alors qu'il y a une éthique chrétienne. Il faut tout le temps bien le comprendre. Si on ne faisait pas la distinction entre être et vie, à la manière de Feuerbach, on ne comprendrait pas cette distinction, c'est bien évident. Mais si on comprend la distinction être et vie, parce qu'il existe une philosophie du vivant qui n'est pas la métaphysique, on peut saisir toute la différence qui existe entre l'être et la vie, au point de vue humain. Et donc comprendre qu'il peut y avoir une éthique chrétienne et qu'il n'y a pas de métaphysique chrétienne. Alors, revenons à cette considération de la mort de Jésus et de sa résurrection. Puisque c'est là, et là seulement, que je puis saisir ce qu'il y a d'unique dans l'éthique chrétienne. C'est une éthique qui implique la mort pour la vie éternelle. C'est une éthique qui assume la mort de Jésus pour la résurrection. Je ne peux donc ni supprimer la mort de Jésus, ni supprimer sa résurrection. Les deux sont essentiels pour saisir ce qu'est l'éthique chrétienne. Évidemment, c'est la résurrection qui termine tout. Cette résurrection se fait à partir de la mort. Et à partir de la mort de Jésus. Alors, comprenons, dans la lumière de la résurrection, le mystère de la mort. Puisque c'est comme ça que la mort est vécue dans le Christ pour nous. Jésus accepte librement la mort, sachant que cette mort se réalise pour accomplir la volonté du Père. C'est donc dans un acte de liberté, et d'une liberté qui s'incarne dans l'obéissance, que Jésus meurt. C'est dans un acte d'amour, cette intention de vie, il meurt pour glorifier le Père, il meurt pour nous sauver. C'est le même amour qui, de fait, s'exprime à travers le même acte. Il n'y a pas deux actes différents. Dans sa vie apostolique, il y a toujours deux actes différents. Le Christ face au Père, le Christ face aux hommes. Ce qui est très étonnant, c'est que l'acte dernier de la vie du Christ fait que c'est le même acte qui met Jésus. transforme dans un don miséricordieux de tous les mêmes. Et ça, je crois, aussi très important à noter. Alors, si vous voulez, regardons ces deux versants de la mort de Jésus pour en comprendre la richesse propre, pour en comprendre son caractère propre, et comprenons que ces deux versants sont substantiellement un. Quand Jésus enseigne, il n'enseigne pas le Père, il nous enseigne. Quand Jésus fait des actes de miséricorde, il ne fait pas des actes de miséricorde à l'égard du Père, mais à notre égard. Quand Jésus adore, il adore le Père et ne nous regarde pas. Il n'y a que l'amour qui permet l'unité de deux. Un amour qui assume l'adoration. Un amour qui assume la miséricorde. Mais c'est ni l'amour ni la miséricorde qui fait l'unité, c'est l'amour. Et vous voyez, c'est capital pour nous quand on essaie de comprendre ce que c'est que l'unité de l'Église. Si on ne voit pas ça, on ne peut jamais comprendre ce mystère de l'unité. Père, qu'il soit un comme nous. Or, c'est dans cette unité que Jésus offre sa vie. Et c'est propre au mystère de l'amour, ça. Parce que l'amour regarde la personne. Et regardant la personne, l'amour à l'égard du Père et l'amour à l'égard des hommes pécheurs peut être le même amour. Dans deux exercices différents. Et ça peut être le même amour. Parce que l'amour regarde la personne. C'est ça qui est très étonnant. Et qui est quelque chose d'unique. Alors, voyons comment Jésus accepte de mourir dans l'obéissance. Glorifier le Père. Puisque par là, il accomplit un acte d'adoration tout à fait intérieur. L'amour divin qui est dans le cœur de Jésus. Au-delà de l'exercice de la vertu de religion. C'est la vertu de religion qui est à la source de l'adoration que Jésus réalise à la croix, qui est à la source de cette adoration en esprit et en vérité, qui se réalise dans un holocauste. Voyez, quand l'adoration est assumée par l'amour, l'adoration va se réaliser dans un holocauste. L'holocauste qui est l'offrande que Jésus fait de sa vie, et qu'il fait de sa vie en totalité, en plénitude. Cette offrande qui se fait à partir de l'amour et dans l'amour. Cet holocauste assume donc, ou plus exactement, cet holocauste est le fruit d'un amour qui assume l'acte d'adoration, l'acte de de réparation que Jésus réalise à la croix. Et je peux faire le même raisonnement. L'amour que Jésus a pour nous, cet acte de miséricorde qui implique un pardon. Jésus nous pardonne. Après s'être offert au Père ou avoir satisfait de nos péchés, en les portant dans toutes leurs conséquences en face du Père, Jésus nous pardonne dans son amour pour nous. L'acte qu'il réalise est commandé par la volonté du Père sur lui. C'est le Père qui, dans son regard contemplatif sur son Fils bien-aimé incarné, lui demande d'achever sa vie au milieu de nous par cet acte d'adoration réparateur qui satisfait, par cet acte d'adoration complètement assumé par l'amour, qui se traduit dans un holocauste. Et c'est la volonté du Père de faire que cet acte soit en même temps un acte de pardon et de miséricorde pour nous. En même temps, c'est-à-dire dans le même amour, mais deux exercices différents. Ce n'est pas le même exercice d'amour d'adorer, de contempler et de pardonner. C'est sûr, ça. Mais c'est le même amour. C'est là où on voit très bien que si on ne fait pas la distinction entre le caractère de la spécificité d'un acte et son exercice, on ne peut pas comprendre. Parce que l'acte d'adoration est spécifiquement distinct de l'acte de miséricorde. Mais l'amour divin peut assumer cet acte d'adoration et en allant jusqu'au bout faire que cet acte d'adoration se réalise dans un holocauste, l'offrande de sa propre vie, pour que l'adoration soit parfaite. L'adoration ne peut être parfaite que si on offre sa vie à Dieu. Et on l'offre radicalement en holocauste. Ce qui, d'habitude, se fait symboliquement par l'offrande des taureaux et des boucs. Et qui, dans l'Ancien Testament, se réalisait symboliquement par les taureaux et les boucs. L'adoration du peuple juif était vraie. Mais pour montrer que cette adoration à l'égard de Dieu impliquait l'offrande de toute la vie, il fallait que l'offrande de la vie soit symboliquement représentée par l'offrande des taureaux et des boucs. En Jésus, cet aspect symbolique est dépassé dans le réalisme même de l'offrande de sa propre vie. Et ceci parce que il y a un amour parfait qui est ce qui est au point de départ, la source de l'exercice même de cet holocauste, l'exercice même de cette adoration. Et c'est ça qu'il y a de merveilleux dans le mystère de la croix du Christ. Donc, c'est parce que cet acte est un acte d'amour que l'adoration et la miséricorde se sont embrassées. La vérité et l'amour se sont embrassées. Parole que le Saint-Père aime de rappeler constamment. Et je comprends, puisque c'est cela qu'il y a d'unique dans cet acte du Christ. Il y a là quelque chose d'unique. Et ce quelque chose d'unique relève de la plénitude d'amour dans laquelle se réalise cet acte de la croix. Et donc la spécification de l'adoration et de l'Holocauste, la spécification de la miséricorde et du pardon sont dépassées dans l'unité d'amour. Ça, c'est très fort. Et ça va très loin. Parce que c'est ça qui fait l'unité. C'est de faire que le regard du Christ sur le Père qui nous pardonne en réclamant l'offrande de la vie de son Fils, cet acte que le Père veut qu'il soit réalisé par son Fils bien-aimé, cet acte d'amour peut unir ces deux extrêmes, les deux extrêmes de la vie de l'homme et la vie de la volonté humaine. C'est d'une part l'adoration contemplative et la miséricorde du pardon. Ce qu'il y a de plus grand dans la miséricorde, c'est le pardon. C'est ce qu'il y a de plus difficile. C'est relativement facile de soigner des malades. C'est extrêmement difficile de pardonner à quelqu'un qui nous a blessés au plus intime de notre vie. Et de fait, dans l'acte de la croix, sont unis ces deux extrêmes. Ils sont unis dans l'amour. Ce qui est unique. Seul un homme, fils de Dieu, pouvait réaliser ça. C'est pour ça que cet acte, si je le considère, me montre qu'il ne peut être fait que par un homme, fils de Dieu. Aucun autre ne peut le faire. Pour nous, c'est toujours deux activités différentes, l'activité de miséricorde et de pardon, et l'activité d'adoration contemplative. Nous savons bien, et c'est toujours la difficulté d'un ordre apostolique. Ça ne peut être vécu que dans le Christ. C'est pour ça que c'est typiquement chrétien. Il y a eu dans toutes les religions des solitaires, des ermites en exigence de l'adoration. Il y a eu dans toutes les religions des actes de miséricorde héroïque à l'égard des pauvres, séparation des deux. Ce qui est unique dans la vie chrétienne, c'est que la miséricorde et la vérité se sont embrassées. C'est que dans un acte unique, Jésus glorifie le Père par son adoration et l'offrande de toute sa vie, dans un holocauste d'amour. Et dans le même acte, il pardonne aux hommes et les enveloppe de sa miséricorde et de son pardon. Ça, c'est unique. C'est pour ça que la vie contemplative apostolique et typiquement chrétienne. Même une contemplative, qu'on dira une contemplative pure sans œuvre, sera toujours témoin de ce mystère, de l'exigence absolue de l'amour à l'égard du Père et de l'exigence absolue de la charité fraternelle qui s'exerce toujours dans la miséricorde, parce que Dieu fait très bien les choses dans toute communauté religieuse, il y aura toujours quelqu'un d'insupportable. Chacun d'entre nous, on est insupportable pour quelqu'un d'autre. On est très aimé pour certains et insupportable pour quelqu'un d'autre. Chacun d'entre nous. Ceci pour permettre que la contemplation et la miséricorde s'unissent. Et ceci existe aussi bien dans les communautés apostoliques que dans les communautés de pure contemplation. Et quelquefois, ça prendra une acuité plus grande dans les communautés purement contemplatives, parce que la vie apostolique peut être, psychologiquement parlant, une détente. C'était ce bon père qui disait, quand je vis ma vie apostolique, on me regarde vraiment comme un envoyé de Dieu. Quand je suis dans ma vie, au couvent et dans ma vie commune, on ne me regarde plus du tout comme un envoyé de Dieu.